12h30, le journal. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour. Il est devenu en 30 ans un espace de générosité mis au profit de la recherche pour soigner les maladies orphelines. Le Téléthon se poursuit jusqu'à ce soir à Évry, qui accueille le laboratoire Généthon créé par l'Association française contre les myopathies. Une nouvelle structure va voir le jour pour produire à grande échelle des lots de traitements. Reportage à suivre au début de ce journal, puis nous serons avec Ludovic Dupont de la Fondation pour les maladies rares pour un décryptage. En déplacement à Abu Dhabi, François Hollande se concentre sur ses fonctions régaliennes, mais il n'oublie pas complètement la campagne présidentielle avec un message à la droite à propos des fonctionnaires, nous dira Louise Baudet. La bulle financière dans le milieu du football peut-elle éclater après les révélations du consortium de journaux européens, des enquêtes consacrées à la fraude et l'évasion fiscale publiées depuis hier soir? Nous entendrons l'analyse du sociologue du sport Pipo Russo. Enfin, après son grand écart diplomatique avec la Chine, le futur président américain Donald Trump est embarrassé ce samedi par une manifestation du mouvement raciste Ku Klux Klan en Caroline du Nord. La recherche contre les maladies rares à l'honneur jusqu'à ce soir, c'est la 30e édition du Téléthon partout en France. Il s'agit de collecter des dons via le 3637 pour aider les personnes atteintes de pathologies orphelines. Le chemin parcouru dans le domaine de la recherche est exceptionnel. Il y a 30 ans, le concept de thérapie génique émergeait à peine. Aujourd'hui, le Généthon d'Évry, créé par l'Association française contre les myopathies, passe à une autre phase de son développement, l'installation d'un laboratoire scientifique qui devrait produire à grande échelle des lots de traitements de thérapie génique et cellulaire. Projet qui porte le nom d'Hyposchésie, financé par l'AFM Téléthon et BPI France, Virginie Pironon.
Hyposchésie signifie « promesse » en grec. C'est au cœur de cette plateforme industrielle de deux étages, le long de la Nationale 7, que sont produits des médicaments très innovants.
Alors ici, vous avez une zone de production où sont produits en ce moment un candidat médicament pour une maladie du sang.
4 zones de production, 115 chercheurs et une mission que nous détaille Frédéric Réva, le directeur général de Généthon.
D'être capable de produire à grande échelle des médicaments de thérapie génique et de thérapie cellulaire et de les développer pour les amener jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché et de les mettre à disposition des patients à un prix juste et maîtrisé.
L'accès aux patients, c'est le cœur de la philosophie de ce laboratoire pharmaceutique gouverné, et c'est unique au monde, par une association de familles de malades. Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AFM Téléthon.
Hyposchésie, ça doit nous permettre de passer de la taille prototype à la taille industrielle, de faire des sauts technologiques et de produire à plus grande échelle, justement pour pouvoir traiter plus de malades.
Le laboratoire doit s'autofinancer, mais ses recherches s'appuient bel et bien sur les progrès réalisés ces 30 dernières années grâce au Téléthon.
Un reportage de Virginie Pironon. Bonjour Ludovic Dupont.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour les maladies rares, structure récente créée il y a 4 ans pour accélérer la recherche. Vous êtes financé en partie par l'AFM Téléthon avec pour objectif de créer des ponts entre les patients, les centres d'experts dans les hôpitaux et les équipes de recherche universitaires. On l'entendait à l'instant, la mise au point de traitement, cela avance. Mais votre défi, c'est d'abord de permettre aux patients de mettre un nom sur leur maladie pour leur éviter un parcours d'errance diagnostique.
Exactement. La problématique d'errance diagnostique est une problématique majeure aujourd'hui. On considère qu'il y a à peu près 3 millions de personnes en France concernées par une maladie rare et un malade sur 3 n'a généralement pas de diagnostic. Donc c'est donc 1 million de personnes aujourd'hui qui sont à la recherche d'un diagnostic. Et il n'est pas facile pour les médecins d'identifier l'origine des différents symptômes et donc de mettre un nom sur cette maladie. C'est une période diagnostique qui est en général assez longue, plus de 5 ans pour à peu près un quart des 8000 maladies rares qui existent aujourd'hui, avec l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble du projet de vie de ces enfants et de ces adultes.
Alors vous financez plusieurs dizaines de projets par an pour développer les traitements une fois que le diagnostic a été donné. Alors on commence à connaître la thérapie génique, il y a aussi la thérapie cellulaire, mais d'autres méthodes innovantes sont en train de se développer, lesquelles ?
Alors il y a différentes, effectivement, on parle beaucoup de thérapies très innovantes, cellulaires ou géniques, comme on a pu en parler dans le reportage précédent. Mais nous accompagnons aussi des thérapies d'apparence moins innovantes, mais dont le bénéfice thérapeutique pour le malade est indiscutable. Par exemple, il peut s'agir de médicaments peut-être moins à visée curative, mais qui vont soigner les symptômes. Et Dieu sait que les malades sont en attente aussi de traitements, de solutions thérapeutiques qui puissent les soulager de leurs douleurs ou de leurs symptômes. Par exemple, l'ocytocine, c'est un projet que nous avons accompagné depuis la découverte du gène il y a quelques années. Le financement ensuite de modèles animaux, c'est une molécule produite par synthèse chimique, tout simplement, bien connue chez les femmes pour déclencher l'accouchement, et qui aujourd'hui a des applications thérapeutiques dans le syndrome de Prader-Willi. C'est une des maladies rares, des 8000 maladies rares que j'évoquais tout à l'heure, qui concerne une naissance sur 20 000, donc une maladie effectivement très rare. Aujourd'hui, un essai clinique est en cours sur le CHU de Toulouse suite aux résultats positifs qui ont été obtenus chez la souris. Cet essai a lieu sur des nourrissons de 1 à 5 mois. Et c'est ce que l'on appelle une phase 3 d'un essai clinique de plus grande envergure qui est en cours de validation pour améliorer le comportement alimentaire et puis un certain nombre d'autres des ordres majeurs qui surviennent chez ces jeunes enfants.
Alors, le défi est immense, puisqu'actuellement, il n'y a que 100 traitements spécifiques pour 8000 maladies rares. La recherche avance.
Exactement.
Les traitements se développent, on vient de le dire. Néanmoins, il n'existe pas de modèle économique abouti actuellement pour produire et vendre au juste prix ces traitements rares. C'est un sujet sur lequel vous réfléchissez aussi.
Effectivement, c'est également un sujet dont s'est emparée notre fondation, la Fondation des maladies rares. On a beaucoup avancé, on a des technologies de pointe qui permettent de produire aujourd'hui des thérapies très très complexes, qui mobilisent des technologies très très complexes et très coûteuses, des thérapies cellulaires, des thérapies géniques. Le problématique du modèle économique, la Fondation s'en est emparée de la manière suivante. Nous avons créé un groupe d'économistes de la santé que pilote le professeur Pierre Lévy de Dauphine, avec comme objectif le développement d'une approche médico-économique pour chiffrer les coûts médicaux et sociaux, les coûts directs en termes de consommation de soins, mais aussi indirects en termes d'arrêt de travail itératif, par exemple, autour de la prise en charge de ces malades. Combien coûte aujourd'hui la prise en charge d'une maladie rare? À partir des données que
combien ça coûte justement? On avance des chiffres, ça peut aller jusqu'à 700 000 euros, un traitement?
Alors les traitements, aujourd'hui on parle même de traitements qui vont jusqu'au million d'euros, avec un traitement en une seule étape, comme on dit, mais qui sont effectivement à proposer à des coûts exorbitants. Pour autant, en termes de modèle économique, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la possibilité d'opposer à ce coût de traitement ou de, en tout cas, d'en évaluer l'intérêt économique, c'est de chiffrer le coût de prise en charge ou de non prise en charge d'une maladie rare. Combien coûtent aujourd'hui ces maladies très compliquées qui, on l'a expliqué tout à l'heure, amènent les malades à avoir un parcours, un véritable parcours du combattant dans l'hôpital, avec tous les coûts que cela peut induire et entraîner. Et combien coûte la non prise en charge? Ce seraient des données économiques qui seraient opposables demain, en tout cas, qui permettraient de chiffrer l'apport que pourrait avoir une thérapie complexe et coûteuse.
Merci Ludovic Dupont d'être intervenu dans le journal de midi 30 de France Culture à l'occasion de ce 30e Téléthon. L'an passé, l'événement a permis de récolter 94 millions d'euros de dons. À cette heure, le compteur affiche presque 13 millions d'euros de promesses de dons. Des nouvelles de François Hollande. Deux jours après avoir renoncé à briguer un second mandat, le chef de l'État poursuit sa visite à Abu Dhabi où il conclut aujourd'hui la conférence internationale sur le patrimoine mondial en péril. Les participants viennent de s'engager à créer un fonds de 94 millions d'euros pour préserver les biens culturels menacés par les conflits. François Hollande qui a visité le Louvre à Abu Dhabi ce matin. Le musée doit ouvrir ses portes l'an prochain. Le président se concentre désormais sur ses fonctions régaliennes en envoyant tout de même quelques messages en vue de l'élection présidentielle de l'an prochain, Louise Baudet.
Terminer l'ambivalence, la double casquette, François Hollande va donc présider et rien d'autre. La preuve par le son et l'image à Abu Dhabi, où le président veut montrer qu'il garde tout de même un peu d'humour.
C'est pas tous les jours que je viens à Abu Dhabi. La première fois c'était en 2013, donc c'est la seconde. Je ne sais pas s'il y aura une troisième fois, c'est pour ça que je prends tout mon temps pour vous parler.
Mais au-delà du bon mot, le message est clair, le président va désormais se concentrer sur ses tâches régaliennes, au premier rang desquelles la protection des Français.
Il faut protéger les personnes, c'est notre premier devoir. Les populations civiles qui sont menacés par les guerres ou par le terrorisme. Et mon action comme président de la République est d'abord une action de protection.
Présider et rien d'autre, sans pour autant se priver d'attaquer la droite et ses projets pour les fonctionnaires.
Quand il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'État. Quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus de France. Il faut aussi en prendre conscience si l'on veut savoir vers quoi nous voulons aller ensemble.
Sur le chantier du Louvre à Abu Dhabi, puis devant la communauté française, le chef de l'État dessine par petites touches les contours de ses derniers mois de mandat et livre comme une définition de sa fonction.
Être président de la République, c'est à la fois une responsabilité éminente et une fierté. Une fierté à condition, et c'est la seule condition qui vaille, à condition de faire avancer la France. Telle est la tâche qui est la mienne jusqu'au mois de mai prochain.
Jusqu'en mai prochain, mais pas au-delà.
Les révélations ont commencé hier soir et vont durer 3 semaines. Sur le modèle des Panama Papers, 12 médias européens appartenant à un consortium ont épluché plus de 18 millions de documents pour ce qui est en train de devenir le Footleaks, une vaste enquête sur la fraude et l'évasion fiscale dans le milieu du foot. Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid, aurait ainsi dissimulé près de 150 millions d'euros au fisc espagnol. Cela grâce à un montage financier offshore mise en place par son agent George Mendes. L'analyse de Pippo Russo, sociologue du sport italien, qui a écrit plusieurs livres sur la dark economy dans le milieu du foot.
George Mendes est selon moi l'homme le plus puissant du football global aujourd'hui. Et pour George Mendes, José Mourinho et Cristiano Ronaldo, ce sont ses premiers clients. Et je ne pense pas que Ronaldo soit un ingénu. Je ne peux pas croire qu'il n'était pas au courant de ce qui était fait avec son argent. Mais vous savez, aujourd'hui, le football représente un vrai commerce pour l'économie offshore. Ce qui vient d'être révélé affecte des personnalités importantes du monde du football, mais c'est une toute petite partie d'énormes mouvements d'argent qui, jour après jour, font glisser le football vers l'économie offshore. Et je pense que le football est assis sur une bulle financière qui grandit de plus en plus et qui va exploser peut-être dans quelques mois. Cela pourrait être la fin du football actuel, mais aussi un nouveau départ sur des bases plus humaines, sans ce système économique gigantesque qui aujourd'hui domine le football.
Des propos recueillis par Benjamin Illy. En Espagne, c'est le premier test social pour Mariano Rajoy qui vient d'être réinvesti après des mois de crise politique. Les marches de la dignité reprennent aujourd'hui dans le pays, Mathieu de Taillac.
Les marches de la dignité, c'est le nom de ces manifestations à travers l'Espagne, avaient enregistré un beau succès en mars 2014, à la veille d'une période de 2 ans marquée par de très nombreuses élections municipales, régionales et par 2 fois législatives. Ces protestations, liées au mouvement des indignés, avaient fait sortir des dizaines de milliers d'Espagnols pour réclamer la fin de l'austérité du gouvernement de Mariano Rajoy. Près de 3 ans après, Rajoy est toujours là. Le dirigeant conservateur a été réinvesti grâce au vote de sa formation, le Parti Populaire, le PP, des centristes de Ciudadanos et de l'abstention des socialistes du PSOE. Podemos, tout de même, et ses alliés de gauche radicale ont obtenu de vrais succès en conquérant les mairies des principales villes d'Espagne et en déboulant au Parlement avec 71 députés. Mais après, l'austérité est toujours là, avertissent les organisateurs de ces manifestations. Le gouvernement, je cite « PP-SOE-C », autrement dit « PP-PSOE-Ciudadanos », qu'ils agglutinent sous de mêmes sigles, prépare un nouveau crime social, fin de citation. La manifestation phare à Madrid est convoquée à 19h. La police a d'ores et déjà protégé les principaux monuments dans le centre, la Puerta del Sol, notamment le berceau des indignés. Ce sera le premier test social pour le nouveau gouvernement de Mariano Rajoy.
La Chine a protesté tout à l'heure solennellement auprès des États-Unis, conséquence d'un appel de la présidente taïwanaise au futur président américain Donald Trump, qui s'en est félicité sur son compte Twitter. Pékin demande à Washington de respecter le principe d'une Chine unique. Un coup de téléphone loin d'être anecdotique, puisqu'il rompt avec 40 ans de diplomatie américaine. Mais la marche arrière est d'actualité aujourd'hui dans le pays, puisque le groupe raciste Ku Klux Klan se rassemble publiquement en Caroline du Nord en espérant se relancer. Frédéric Carbone, par sa rhétorique, Donald Trump a contribué à cette résurgence pendant la campagne. Il est embêté ce samedi.
Dans sa tournée de remerciements, c'est le rassemblement que Donald Trump évitera. Il ne réunira probablement que quelques dizaines de personnes, mais c'est aussi le soutien le plus embarrassant pour le nouveau président. L'extrême droite voit en effet une opportunité historique dans la victoire d'un populisme qui promet de renouer avec la grandeur de l'Amérique. Le Ku Klux Klan s'est donc rangé publiquement derrière le candidat Trump. Une semaine avant le scrutin, le bulletin officiel du mouvement raciste appelait à voter pour lui. Et il promet pour aujourd'hui cette parade de la victoire dans un endroit tenu secret en Caroline du Nord. Pendant la campagne, Donald Trump s'est montré ambigu, il n'a pas spontanément rejeté ses soutiens et il lui est arrivé de retweeter des commentaires de militants suprémacistes blancs. Aujourd'hui, il condamne toutes les théories racistes, son entourage dénonce une obsession pour un groupuscule marginal, mais cette résurgence est également une menace pour le message unitaire que veut désormais porter Donald Trump. Au New York Times, il explique qu'il ne veut surtout pas encourager ces mouvements, c'est maintenant par ses actes qu'il devra combattre leurs idées.
La météo de votre après-midi sera lumineuse, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où les nuages ont du mal à se disperser. Les températures resteront fraîches de 0 à Strasbourg à 11 à Ajaccio.